Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Dialogue non violent. Nous avons suivi la fois dernière l'évolution de la pensée de Gandhi, forgée par sa culture indienne et l'impression que lui ont laissé l'étude des religions et la lecture d'auteurs comme Tolstoï. Fort de ses convictions, Gandhi va peu à peu se mettre en marche en s'efforçant de mettre sa pensée en acte dans la vie sociale et politique de l'Inde.
Tu as déjà été en prison ? On est battu et torturé ! Ce qu'il faut, c'est...
Je vous demande de livrer un combat, de lutter contre leur colère, pas de la provoquer. Nous ne donnerons pas un seul coup, mais nous recevrons les leurs sans un mot. C'est notre souffrance qui leur fera comprendre leur injustice, notre souffrance, la souffrance de tout combat. Nous ne pouvons pas perdre, nous ne pouvons pas. Ils me tortureront, me frapperont, ils briseront mes membres. Ils me tueront peut-être. Alors, c'est mon cadavre qui leur appartiendra. Et non pas mon obéissance.
En 1904, après avoir fondé le journal Indian Opinion, Gandhi tombe sur le livre Unto This Last de John Ruskin, un penseur britannique. Dans ce livre, John Ruskin développe le fait qu'il n'y a pas d'autre richesse que la vie. Les deux se combinent. Ruskin ne voit donc pas l'économie de façon utilitariste en termes d'échanges marchands, mais en termes moraux. La pensée de Ruskin influence profondément Gandhi à changer radicalement de vie dans les années qui suivent. Suite à cette lecture, Gandhi créera la Tolstoï Farm, en mémoire de Tolstoï, où tous les rédacteurs du journal participeront aux travaux agricoles, recevront le même salaire, sans distinction de métier, de nationalité ou de couleur de peau. Il commencera la pratique du jeûne, arrêtera de consommer du lait, coupera ses cheveux lui-même et nettoiera ses latrines. Travail qui était réservé aux intouchables en Inde. Et il incitera sa femme et ses amis à en faire autant. Au cours de son premier séjour dans les prisons britanniques d'Afrique du Sud en 1908, Gandhi commencera à traduire l'ouvrage de Ruskin, Unto the Last, en Gujarati, sa langue maternelle, sous le titre Sarvodaya. Ce livre immense, écrira-t-il plus tard dans son autobiographie, me renvoya alors, comme un miroir, certaines de mes convictions les plus profondes. Voici tels qu'ils m'apparurent les trois enseignements de cet ouvrage. Que le meilleur de l'individu se retrouve dans le meilleur de la collectivité. Satish Kumar décrit la notion de Sarvodaya dans son livre « Pour une écologie spirituelle ». Comme je désirais en savoir plus sur les idées et la manière de vivre du Mahatma, la grande âme de l'Inde, assassinée en 1948, je résolus de me joindre à la petite communauté gandhienne installée à Bodh Gaya, non loin de l'arbre deux fois millénaire sous lequel Bouddha avait atteint l'éveil. C'est là, dans l'ashram fondé par Vinoba Bhave, que j'ai lu Sarvodaya, l'adaptation par Gandhi d'Il n'y a de richesse que la vie, une série d'articles de John Ruskin sur l'économie parue en 1860. Profondément marqué par cette lecture, Gandhi avait décidé de traduire l'ouvrage en Gujarati et forger à cette occasion un terme nouveau, Sarvodaya, le bien-être pour tous. Ce néologisme servit de titre à sa traduction, avant de devenir le fer de lance de sa propre philosophie. Le terme Sarvodaya se compose de la racine sarva, qui signifie tous, au sens de tous les êtres sensibles, et de udaya, qui désigne l'élévation ou l'amélioration. Accolés l'un à l'autre, ils désignent la notion de bien-être pour tous, essentielle à la philosophie gandhienne. Le mouvement sarvodaya s'adresse à toute forme de vie, sans en exclure aucune. Il accorde une valeur intrinsèque à l'ensemble des créatures et des éléments terrestres. Hommes, animaux, insectes, plantes, forêts, montagnes, fleuves et rivières. Perçu comme égal aux autres, l'espèce humaine ne peut s'arroger le droit d'exploiter la nature. Elle doit, au contraire, recevoir ses dons avec humilité et gratitude, et veiller à restituer ce qu'elle lui prend pour satisfaire ses besoins vitaux. D'après Gandhi, il y a assez de tout dans le monde pour répondre aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Lorsque le Mahatma évoque l'autodiscipline et la modération, il ne nous invite pas à nous priver de tout et à vivre dans la misère, mais à poser une limite à nos désirs, à admettre que d'autres espèces ont aussi besoin d'espace, de nourriture, d'eau et de végétaux. Les hommes n'ont pas le droit de confisquer la part qui revient aux autres êtres vivants. S'il était mis en pratique d'un bout à l'autre du globe, ce principe tout simple permettrait à l'humanité de vivre dans la joie, l'élégance et la sobriété.
Sivaraj, Sandesi, Aparigraha, Sambhava, Brahmacharya, Arijam, Antap, Ashram, Sambhava, Ahimsa, Aparigraha, Sambhava, Ahimsa, Arijam, Sambhava, Ahimsa, Arijam, Sambhava, Ahimsa, Ashram,
L'Américain Henry David Thoreau est aussi un maître à penser de Gandhi. Celui-ci, au cours de ses nombreux séjours dans les prisons britanniques, emprunte à la bibliothèque le livre « La désobéissance civile », dans lequel Thoreau argumente l'idée d'une résistance individuelle à un gouvernement jugé injuste. Gandhi disait de ce texte qu'il était magistral et qu'il avait fait sur lui une profonde impression. Il citait souvent le passage dans lequel Thoreau parle de son séjour en prison. Dans ce passage, Thoreau dit « Je ne me sentis pas un seul instant emprisonné et les murs me semblaient être un gaspillage de pierres et de mortiers. Je constatais que l'État était stupide et craintif, je perdis tout respect pour lui et je le pris en pitié. » Pour Thoreau, en cas de conflit, entre ce que me dit ma conscience et ce que me dit la loi, je dois obéir à ma conscience. Sous un gouvernement injuste, la place d'un homme juste est en prison. Publié à compte d'auteur sous le titre « Résistance au gouvernement civil », cet opuscule connaîtra un succès certain et influencera fortement Gandhi, mais aussi Martin Luther King. Lorsque Gandhi, à la fin des années 1890, prend en Inde la tête du mouvement de défense des fermiers et des travailleurs pauvres, il les incite à la résistance passive contre les taxes et la discrimination. Après la lecture de Thoreau, il remplacera cette notion de résistance passive par celle de désobéissance civile. L'activisme qu'il prône présente toutefois deux différences notoires avec celui revendiqué par le philosophe américain. Il doit être collectif, massif, et il doit se fonder sur l'ahimsa, non-violence, ce que ne spécifiait pas Thoreau.
Mesdames et messieurs, nous vous avons prié de vous rassembler ici pour proclamer notre droit à être traités comme des citoyens de l'Empire, à part entière. Pas un de nous ne cherche le conflit. Nous connaissons l'ampleur des forces déployées contre nous. Et pour ce motif, nous n'utiliserons que les moyens pacifiques. Mais nous voulons néanmoins que justice soit faite. Le symbole de notre statut est tout entier présent dans ce permis qu'il nous faut montrer à tout instant aux autorités, alors qu'aucun Européen n'est tenu d'en posséder un. La première étape vers notre nouveau statut sera l'élimination de cette discrimination.
Vous savez fort bien manier la plume, mais un peu moins les hommes. Allez, emmenez-le tout de suite.
Une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Et la désobéissance civique, pour moi, ça a été important de montrer que comment des citoyens pouvaient se réapproprier l'action, leurs droits, face à l'État. Et c'est Henri David Thoreau qui avait défini le premier la désobéissance civique. Quand il dit, eh bien, c'est au citoyen d'assumer sa responsabilité en refusant de payer les impôts. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le titre entier de son petit opuscule sur la désobéissance, il dit que c'est une mode d'action dans un cadre démocratique, dans un pays démocratique. Les gens souvent sont surpris, ils pensent que la désobéissance est liée à des États totalitaires.
Et celui qui cite Henry David Thoreau, Henri David Thoreau, on va l'appeler comme ça, c'est José Bové.
La démarche de Gandhi aboutira en 1930 à la célèbre Marche du sel, qui mènera en 1947 à l'indépendance de l'Inde.
En 1930, Gandhi organise une marche de 3 semaines à travers l'Inde. 358 kilomètres pour atteindre la mer d'Oman et y ramasser une poignée de sel. Il brise ainsi symboliquement le monopole du commerce du sel que les Britanniques se sont arrogé depuis des siècles. Gandhi et ses partisans sont bien sûr arrêtés, mais celui que Churchill surnomme avec mépris le fakir à demi nu a gagné. Ces images ont fait le tour du monde. Désobéissance civile et non-violence, ce sont les armes de Gandhi. Les Britanniques jouent du bâton, la répression est constante, souvent brutale, parfois sanglante. Et les prisons constamment pleines. Gandhi sera emprisonné 7 fois, en tout 4 ans. Nehru 8 fois, en tout 9 années.
Précurseur de mouvements plus récents tels que celui des indignés, Gandhi tire ses actions de diverses influences indiennes, mais surtout occidentales, comme on vient de le voir. Cependant, pour Gandhi, la non-violence va bien au-delà de la société indienne, affirme Ramin Jan Beglo dans son livre « Gandhi aux sources de la non-violence ». Celle-ci, poursuit-il, constitue une doctrine universelle pour tous les hommes et pour tous les temps. Il est lui-même intimement convaincu que la non-violence est l'un des maîtres mots de l'histoire en son siècle, mais plus encore des siècles à venir. C'est en cela que ses idées sur la non-violence et la tolérance dépassent le seul cadre de l'histoire de l'Inde et de son avenir. Nous verrons dans la prochaine émission Dialogue non-violent comment Gandhi a pu articuler sa vision de vérité fondée sur l'amour et son action ancrée dans la réalité sociale de l'Inde. Thank you.